réplique la prière d'Esther avec Élisabeth de Fontenay et Éric Marty. Entre Borges et Benjamin, entre fantaisie érudite et méditation fervente, La prière d'Esther, le dernier livre d'Élisabeth de Fontenay, nous conduit de Racine à Proust, en passant par la Bible, dans ses versions hébraïques, grecques et latines, et par la bouleversante figure de la grande actrice de la première moitié du XIXe siècle, Élisabeth Félix, connue sous le nom de Rachel. Avec Élisabeth de Fontenay et le très fin lecteur qu'est Éric Marty, nous suivrons le sinueux itinéraire de ce livre, nostalgiquement catholique, timidement juif et imaginairement français, comme l'écrit son auteur. En commençant donc par la prière d'Esther dans la tragédie de Racine. Au moment où elle s'apprête à intercéder auprès d'Assuérus pour son peuple menacé d'extermination, Esther s'adresse à l'Éternel. Elle reconnaît que la nation juive, qu'il avait choisie entre toutes, a violé sa foi pour rendre à d'autres dieux un honneur adultère, et que pour cela, il l'a livrée entre les mains de ses ennemis. Mais ceux-ci, les Perses en l'occurrence, ne se contentent plus d'opprimer les Juifs par une dure servitude, ils veulent les anéantir. Et voici les dernières paroles de la prière d'Esther. Non, non, ne souffre pas que ces peuples farouches, ivres de notre sang, ferment les seules bouches qui dans tout l'univers célèbrent tes bienfaits, et confond tous ces dieux qui ne furent jamais. Pour moi que tu retiens parmi ces infidèles, tu sais combien je hais leurs fêtes criminelles, et que je mets au rang des profanations leurs tables, leurs festins et leurs libations. Que même cette pompe où je suis condamné, ce bandeau dont il faut que je paraisse orné dans ces jours solennels à l'orgueil dédié, seul et dans le secret, je le foule à mes pieds. Qu'à ces vains ornements, je préfère la cendre, et n'ai de goût qu'aux pleurs que tu me vois répandre. J'attendais le moment marqué dans ton arrêt pour oser de ton peuple embrasser l'intérêt. Ce moment est venu. Ma prompte obéissance va d'un roi redoutable affronter la présence. C'est pour toi que je marche. Accompagne mes pas devant ce fier lion qui ne te connaît pas. Commande en me voyant que son courroux s'apaise et prête à mes discours un charme qui lui plaise. Les orages, les vents, les cieux te sont soumis. Tourne enfin sa fureur contre nos ennemis. Que représente pour vous cette tirade, Élisabeth de Fontenay ?
Écoutez, je n'ai jamais su prier, même quand on me l'a appris étant enfant dans un collège catholique où j'ai été élevée. Je n'ai jamais compris ce que c'était que prier. Mais là, chaque fois dans ma vie où il y a eu quelque chose d'important, non pas tellement à décider, mais à engager, voilà, j'ai récité cette prière d'Esther que j'ai su immédiatement par cœur, alors que j'ai peu de mémoire. Dès que je l'ai lu. Et il y a là quelque chose de. Une sorte de rendez-vous mystérieux.
Vous l'avez lu à quel âge pour la première fois?
En classe de. À l'âge de 13 ans, classe de 4e ou de 3e, je ne sais plus. Et ça a été une sorte de foudroiement. Et je pense à ce mot de Benjamin, je ne trouve pas d'autre manière de le dire. Le rendez-vous mystérieux que représente la rencontre du maintenant et de l'autrefois dans un éclair. Qui fait constellation. Voilà, ça a fait constellation. Et alors pourquoi ? Parce que, maintenant je le dis après coup, bien entendu. À l'époque, je n'en savais rien. Parce que il y avait un passé absolument abominable de ma famille maternelle, puisque 5 personnes proches de ma mère, sa mère et sa sœur, c'est les enfants de sa sœur, son beau-frère, ont été assassinés à Auschwitz. Et évidemment, je pressentais quelque chose d'épouvantable, mais on ne m'en a jamais rien dit. Et surtout, à cette époque, évidemment, on ne m'en disait rien. Et par cette prière d'Esther, j'ai en quelque sorte incarné dans ma vie intérieure ce pressentiment d'un passé impensable. Ce poème, ce fragment poétique admirable a fonctionné comme le pressentiment d'un passé impensable. Et alors, ensuite, toute ma vie, ça m'a hantée. Et si j'écris ce petit livre, c'est parce que ce livre est quasi una fantasia. Ça n'est pas un livre de savoir, ni même un livre de réflexion. C'est une anamnèse. Et disons que c'est une exégèse sentimentale, à la fois généalogique et anamnétique. Et voilà, c'est le résultat de très tard dans ma vie de quelque chose qui a été une expérience
qui vous rend depuis enfant. Mais alors, ce qu'il y a de surprenant, c'est que vous avez eu, à travers la prière d'Esther, le pressentiment d'un passé que vous ne connaissiez pas, un passé juif en l'occurrence, puisque vous étiez élevé dans la religion catholique. Mais ce qui est surprenant, c'est que cette prière d'Esther, et je l'ai appris dans votre livre, ne figure pas dans la Bible hébraïque, il figure dans la Bible des Septante, traduit ensuite par Saint Jérôme, et la traduction de Saint Jérôme, la Vulgate, a été traduite en français par un des grands solitaires de Port-Royal, le maître de Sacy, dont fort heureusement la Bible est aujourd'hui disponible dans la collection bouquins. Et il est vrai que Racine est très très fidèle à la prière d'Esther selon le maître de Sacy. Alors, c'est la question que je me pose. D'où vient-il que cette prière d'Esther ne figure pas dans la Bible originale et originelle? Est-ce qu'on sait ce que...
Ça, je n'en sais rien du tout, mais... il est évident que cette prière d'Esther est quand même très, très chrétienne. Et le paradoxe, c'est que cette expérience juive que j'ai faite, on peut appeler ça une expérience juive, elle est passée par la francité et la catholicité la plus pure. Et c'est ça qui est très troublant pour moi.
Éric Marty.
Oui, mais ce qui est très beau dans le livre d'Élisabeth de Fontenay, c'est que tout ce qu'elle dit d'Esther, de Rachel, est associé de manière intime et cryptée à une histoire personnelle, souterraine, obscure, qui se révèle précisément grâce à l'autre texte, c'est-à-dire comme si elle ne pouvait pas, au fond, parler directement de son expérience sans passer par quelque chose d'un peu citationnel et qui, en effet, pour commencer, la prière d'Esther, que moi, je n'aime pas, en fait, beaucoup. C'est-à-dire,
ah bon,
que, oui, d'abord, une chose, c'est que le maître de Sacy, en effet, intègre cette prière, mais il la décale du texte, c'est-à-dire que, en fait, le maître de Sacy reprend la version hébraïque et aux Septante, reprend cette prière, mais, et le rêve de Mardochée, mais au fond, ça le gêne tellement qu'il n'est pas en mesure de l'intégrer au texte.
Et pourquoi cela gêne-t-il?
Parce qu'en fait, deux choses, c'est la culpabilité qui est présente. C'est-à-dire que, à quoi sert cette prière? À parler de pour Esther, à se justifier de s'être prostituée auprès d'Assuérus, c'est-à-dire donc de dire, en fait, je n'ai pas joui du tout en étant sa femme, je suis cendre, je suis poussière, etc. Donc elle se justifie de son acte, entre guillemets, de prostitution, et puis surtout, elle justifie au fond le génocide lui-même, puisqu'elle dit, nous t'avons trahi, au roi éternel, et elle introduit quelque chose qui est complètement absent, justement.
Non, elle ne justifie pas le génocide, elle explique.
Voilà.
Par les voies providentielles, le châtiment divin, l'oppression, l'esclavage subi par les Juifs qui, en effet, ont rendu à d'autres dieux, pour reprendre le vers de Racine, un honneur adultère. Mais en même temps, je ne trouve pas que cette prière soit tellement chrétienne quand elle dit « Tu sais combien je hais leur fête criminelle », quand elle parle « confond tous ces dieux qui ne furent jamais », il y a quand même chez elle l'expression d'une fidélité juive. Et je trouve très émouvante et très surprenante dans la pièce d'un auteur chrétien.
Justement, la vraie Esther, l'Esther biblique, n'a pas à se justifier. Et elle est en ce sens beaucoup plus juive que l'Esther de Racine. C'est-à-dire qu'au fond, elle est prise dans une situation et le génocide, l'extermination va être en fait une violence tout à fait du dehors. Et non pas quelque chose qui, en effet, par le provincialisme de Racine, a tout de même une forme de justification, en tout cas un sens. Le génocide n'a pas de sens, au fond. Et cette prière donne un sens au génocide.
Non, encore une fois, à l'oppression, pas vraiment au génocide.
Oui, mais le génocide étant une sorte de conséquence de l'oppression. C'est-à-dire, on est dans la théodicée que Lévinas, justement, condamne très bien. Les malheurs du peuple juif ont une raison, c'est la trahison. ou autre. Alors, ce qui est intéressant, justement, ce qui me passionne dans le livre d'Esther, c'est que tout cela est absent et que même Dieu est absent. C'est-à-dire que ce qui est très beau dans le livre d'Esther, c'est que le divin, il se déduit du texte, mais ne s'impose pas comme un message explicite du texte même. Il est, en quelque sorte, dans l'intrigue, là encore au sens luminatien, qui est derrière le texte, derrière l'apparence d'un conte persan, tout à fait amusant, plein de d'aromates, de parfums, de corps. Eh bien, ce texte-là, quoique le nom de Dieu ne soit pas prononcé, ce qui a d'ailleurs posé des problèmes justement aux rabbins pour l'intégrer dans la Torah, parce que c'est un texte qui est un peu bizarre, il n'y avait pas Dieu, tout ça. Et c'est très beau qu'il n'y ait pas Dieu, justement. C'est très beau qu'il n'y ait pas Dieu, c'est très beau que le religieux, au fond, ne soit perceptible qu'au travers d'un texte assez profane, en apparence, et qu'il se déduise comme cela. Donc, je trouve que l'ajout de la prière d'Esther a quelque chose d'un peu lourd, en quelque sorte, et je préfère le caractère profane, mais très profond, dans ce côté profane, du texte biblique hébraïque de la Torah.
Elisabeth,
je suis assez d'accord avec Eric Marty. Il y a quelque chose de très chrétien. D'abord, c'est les Septante qui ont été accueillis par les premiers chrétiens avec beaucoup de faveur. Je suis d'accord avec le fait que cette prière d'Esther est très chrétienne. Est-ce que c'est propre au christianisme que de justifier les génocides par les fautes du peuple? Hélas, non.
C'est omniprésent dans l'Ancien Testament.
Hélas, non. Voilà.
C'est présent dans le livre d'Esther, voilà, mais
c'est présent chez beaucoup de rabbins qui ont écrit sur Auschwitz et qui écrivent des choses absolument scandaleuses. C'est une constante, constante de l'histoire de l'histoire juive d'expliquer.
Nous ne sommes pas Auschwitz, mais nous ne sommes pas loin d'Auschwitz aussi.
Oui, mais alors justement, nous ne sommes pas loin d'Auschwitz. Il y a quand même un problème dans le livre d'Esther pour tous les lecteurs, notamment ceux qui lisent la Bible directement ou littéralement, qui ne lisent pas la Bible avec le Talmud, alors que Lévinas dit bien que le judaïsme, c'est la Bible et le Talmud. Le problème, c'est le retournement. Le peuple juif est menacé d'anéantissement parce que Mardochée refuse de fléchir le genou devant Aman, le grand vizir. Donc Aman dit à Assuérus, il faut les liquider tous. Un édit en ce sens est promulgué, Esther intercède auprès du roi, elle va au-devant de lui, ce qui est un grand risque, parce qu'on n'a pas le droit d'aller voir le roi sans être convoqué, donc elle peut mourir, mais le roi est sous le charme d'Esther, elle renverse la situation, cela ne suffit pas. Et dans la Bible d'Esther de Sassy, le chapitre 9 est résumé ainsi: les Juifs, selon l'ordre du roi, tuent tous ceux qui avaient conspiré leur perte. Ils établissent une fête en mémoire de leur délivrance. Et le nombre des victimes est évalué dans la Bible même à 75 000. Alors, que penser de ce renversement? Est-ce la marque du dieu de la vengeance? Et tout cela sera-t-il corrigé par le serment sur la montagne et le message d'amour? Et cette correction va pousser Marcion jusqu'à dire qu'il y a deux dieux. Ça ne peut pas être le même dieu qui préconise une vengeance aussi sanguinaire et le même dieu qui parle d'amour. Mais bon, que dire de tout cela, Elisabeth?
Le livre d'Esther, le rouleau d'Esther, la Migla d'Esther, c'est à peine un livre canonique pour les Juifs. C'est tardivement un livre canonique. On ne va pas en faire une lecture fondamentaliste. On ne va pas en faire une lecture littérale. On ne va pas se mettre à confondre un conte judéo-persan avec la réalité historique de l'histoire juive. C'est une première chose à dire. La seconde chose, c'est que les Juifs eux-mêmes, les religieux juifs, ont été gênés par ces 75 000, par cette extermination des 75 000. Et ne parlons pas des critiques, je pense en particulier à cet épouvantable Mauron, M-A-U-R-O-N,
qui a inventé la psychocritique.
Oui, voilà, et qui parle de façon quasiment antisémite du livre d'Esther. Mais ce qui me semble très important, là, c'est de voir, comme du reste, Éric, vous le marquez bien dans un très beau texte que vous avez écrit sur le livre d'Esther, il y a quelque chose de quasi contemporain entre l'histoire racontée et la fête instituée, puisque c'est Mardochée qui institue la fête. Et moi, j'accorde une importance fondamentale à la fête de Pourim, que je décris un peu longuement dans un chapitre, qui est une fête où on célèbre la victoire d'Esther. Et chaque fois que le nom d'Aman est prononcé, les enfants font un grand chahut, tapent des pieds, ils ont des crécelles. Et à ce moment-là, on s'arrête de lire le rouleau d'Esther, parce qu'il ne faut pas que la lecture du rouleau soit couverte par le bruit. Mais c'est une grande fête des enfants, et c'est aussi une grande fête des adultes, puisqu'il faut que les hommes s'enivrent jusqu'à ne plus que savoir qui est Aman et qui est Assuérus. Donc, cette fête résout symboliquement, et j'ajouterais donc réellement, le problème que nous posons ici avec les 75 000 Amalécites, les 75 000 Persans assassinés sur l'ordre d'Esther et d'Assuérus. Car cette manière de revivre la chose sur un mode rituel, sur un mode festif, dans une sorte de grande cérémonie de consolation, ça me semble quelque chose de très juste et sans quoi il est très difficile de lire le livre d'Esther, et du reste, Racine parle de Pourim dans sa préface. C'est incroyable, mais c'est comme ça.
Oui, je crois qu'on ne peut pas lire le livre d'Esther sans voir quel est son véritable objet. C'est d'écrire un génocide en tant qu'il peut être évité par le conte. Et c'est ça qui est au cœur vraiment du texte. C'est une sorte d'œuvre littéraire fantastique et également religieuse. C'est de produire le concept de génocide par son évitement, et son évitement passe en effet par un dernier chaînon qui est le renversement, à savoir les exterminés deviennent exterminateurs, et en effet la race d'Agag, qui est l'ancêtre d'Aman, va être exterminée. Alors moi je crois qu'on ne peut pas lire en effet cet événement comme ça, en tant que tel, une simple vengeance. Il faut l'inscrire dans ce que le texte institue lui-même, à savoir Pourim, le carnaval, le grand phénomène qui est tout à fait étonnant dans le monde juif, c'est Pourim, à savoir cette fête qui a lieu au mois de février, hein, qui est le grand carnaval, et qui est inscrit par le livre d'Esther et prescrit par le livre d'Esther. C'est-à-dire que Mardochée, qui est une espèce d'extraordinaire héros du livre, à la fin du livre, institue Pourim, la fête des sorts, et qui institue en fait ce qu'on peut appeler le sang dessus-dessous. Le sens se renverse, c'est le chaos du sens. Et la fête de Pourim, c'est quoi? Ce sont des cris, des hurlements, des crécelles, des rires, de la mascarade. Et en effet, une ivresse totale au point qu'on ne sait plus distinguer maudit soit Aman de béni soit Mardochée, c'est-à-dire qu'il y a une confusion du sens. Alors je considère qu'en fait, l'extermination des ennemis ne doit pas être pris comme un fait isolé. Il doit être pris dans la logique même du carnaval, dans la logique même du renversement, dans la logique du sens contraire ou du sens dessous-dessous, qui fait que, en effet, il y a un soulagement absolu d'avoir échappé au pire. Et ce soulagement, il passe par une forme de délire, une forme de carnaval, où la mort de l'autre ne doit pas être complètement prise au sérieux. Même si cette histoire est aussi dans une logique historique de la Bible, puisqu'on se rappelle que Saül n'a pas tué Agag lors d'un combat de guerre entre justement les Agagites et les Hébreux, et qu'il a peut-être eu tort de ne pas justement tuer l'ennemi, et qu'en ce sens cette vengeance est une façon de, eh bien, en effet, de conclure. Mais je crois que c'est vraiment symbolique, un renversement symbolique qui doit être pris dans la grande symbolique de l'évitement du génocide. Et Pourim ne prescrit pas. Pourim n'est pas seulement le carnaval. C'est aussi un soulagement, un rire, une fête qui doit en même temps mémoriser le risque, la menace permanente du génocide, mais sous le déguisement même du rire et de ce carnaval juif qui est tout à fait extraordinaire par son caractère délirant et très peu dans la vision, endoxale qu'on a du monde juif, qui est un monde souvent perçu comme lugubre, comme triste, comme sérieux. Non, il y a un carnaval juif, oui, et ce carnaval juif, c'est Pourim, qui est une fête.
Alors, simplement, la lecture littérale
à une histoire. Vous avez cité Charles Moron, Élisabeth de Fontenay, donc je vais quand même dire ce qu'il en est de, dans l'inconscient, dans l'œuvre de la vie de Racine. Il écrit « Le juif menacé de mort rêve qu'il inverse les rôles. Parlant d'Esther, Moron évoque la cruauté de son triomphe et surtout son caractère d'image exactement inversé, le châtiment répétant le crime, sa loi et celle du talion, potence pour potence, carnage pour carnage. » Vous êtes frappé par ces lignes écrites moins de 10 ans après le procès de Nuremberg, et pas pour rien, d'une certaine manière, puisque vous le dites aussi dans votre livre, Streicher, Julius Streicher, a justifié le pogrom de la nuit de cristal en disant que c'était un acte d'autodéfense, sinon les Juifs auraient massacré le peuple allemand aussi sûrement qu'ils avaient charcuté 75 000 personnes. Vous dites aussi, vous citez aussi Hitler lui-même, qui le 30 janvier 44 déclare que si l'Allemagne est vaincue, les Juifs pourront célébrer un second Pourim. Et enfin, Streicher, une dernière fois, juste avant d'être pendu, ce sont les Juifs qui vont être contents, c'est Pourim 1946. Et des lectures littérales foisonnent à nouveau aujourd'hui, qui expliquent en quelque sorte la violence imputée à l'État d'Israël par la Bible. La Bible, en quelque sorte, comme école du crime. Donc, tout cela, ce littéralisme, a une longue histoire, et cette histoire n'est pas finie. Élisabeth de Fontenay, vous êtes d'accord
oui,
avec ça?
Oui, c'est vrai que c'est souvent pratiqué dans les paroisses, cette lecture fondamentaliste catholique de la Bible qui explique les crimes d'Israël, sikh, par les crimes de la Bible. J'ai évoqué aussi une autre lecture fondamentaliste qui me semble horrifiante, qui est celle d'un journaliste qui s'appelle Bernard Benjamin et qui a écrit un livre qui s'appelle « Le Code d'Esther » où il fait du livre d'Esther la préfiguration, la prémonition, l'annonce, la prophétie, je ne sais pas comment dire, du procès de Nuremberg, mais avec une précision absolument incroyable. Le nombre de dignitaires nazis pendus correspond au fils d'Aman, avec une petite différence, parce qu'il y en a un de plus, enfin, il y en a ou un de moins. Et tout ceci, ce livre me semble une très mauvaise action sur le plan littéraire, sur le plan biblique, sur le plan juif, sur tous les plans. Cette lecture, on est cerné par les fondamentalistes, quels qu'ils soient.
Mais voilà. Cette lecture, elle vient du fait, enfin comment dire, les juifs religieux croient qu'il y a dans la Bible, pensent qu'il y a dans la Bible de quoi penser toutes les catégories de la vie humaine, et certains vont plus loin encore, et y voient la prémonition, en quelque sorte l'annonce, de tous les événements de l'histoire. Et c'est ce glissement qui est absolument affolant.
Oui,
Éric Martin.
Alors, ça va même plus loin, puisque Ahmadinejad lui-même voyait dans le massacre des 75 000 Iraniens, puisqu'il prononçait le mot iranien pour les Persans, quelque chose qui, en effet, devait marquer l'hostilité profonde à Israël. Donc tout cela est très, très compliqué et va dans une actualité brûlante dans le contemporain. Or, en effet, le livre de Sènes n'est pas du tout un livre prophétique. Il n'annonce rien. Il décrit ce qui, justement, n'a pas lieu, à savoir l'extermination. Et il faut le lire comme ça. Je pense qu'il est absurde, vous avez, Elisabeth Fontenay a tout à fait raison, il est absurde de vouloir avoir une lecture analogique, ésotérique du livre d'Esther. Alors, il y a 10 fils d'Aman qui sont tués, comme les 10 de Nuremberg. Tout cela est très approximatif, tout cela est très, finalement, superstitieux. C'est une lecture superstitieuse.
Une sorte de numérologie.
Voilà. Alors que, en fait, même, c'est un texte qui n'est pas prophétique, qui est allégorique. C'est-à-dire qui nous permet de penser la menace, c'est tout. Il ne va pas au-delà. Il permet de penser la menace comme telle, et au fond, quel peuple a été capable de se penser lui-même sous, justement, l'effet de la menace? Sinon, le peuple juif, et entre autres par ce livre d'Esther, qui est donc quelque chose d'absolument extraordinaire dans derrière son apparence de conte persan, quelque chose d'extraordinaire dans la dimension métaphysique, puisque, justement, le conte abrite le concept même d'extermination, qui est un concept qui ne va pas de soi. Très peu de peuples sont en mesure de penser ce concept même. Et il y a quelque chose donc de fascinant là-dedans. Alors, en effet, les lectures de type de celles que Isabelle Desfontaines indique ou que vous rappeliez sont plutôt le fait, à mon avis, des antisémites. Ce sont le fait de Julius Streicher, ce sont le fait d'Ahmadinejad, plutôt qu'ils devraient être le fait, justement, des lecteurs juifs.
Et ce qui est assez fascinant, en effet, c'est que il y ait cette angoisse existentielle profonde de disparaître en tant que peuple dans la Bible même, voilà. Comme si cette angoisse accompagnait le peuple juif des Hébreux jusqu'à nos jours.
Voilà. Mais sous la forme d'une menace, je trouve ça tout à fait sain, au fond, qu'un peuple soit en mesure de se penser comme pouvant disparaître. C'est parce que, justement, c'est une notion qui permet de donner un sens eschatologique à la vie, à l'existence, que de penser l'hypothèse de la disparition, c'est au fond aussi affirmer son existence. On peut le voir sous la forme de l'angoisse, du fantasme, de la névrose, de la paranoïa, mais aussi on peut le penser de manière entièrement positive, comme une affirmation d'être, évidemment. Mais cette affirmation d'être, elle est d'autant plus belle qu'elle est en danger et qu'elle a cette au-dessus d'elle suspendue, en effet, le fait de disparaître au fond de la grande chaîne signifiante du monde et d'être effacé de cette chaîne signifiante.
Elisabeth de Fontenay.
Il n'y a jamais eu à travers l'histoire de célébration de fêtes juives sans référence à ce qui se passait au moment même. Et ce qui est très émouvant, c'est de penser que cette fête de Pourim a été célébrée dans les pires moments de l'histoire du peuple juif, dans les pires moments de persécution, y compris le nazisme, et que ça avait une fonction consolatrice. Je suis très sensible à ça. Je suis très sensible au fait que le livre d'Esther, à la fois dans sa version chrétienne, dans sa version juive, septante, et dans la fête de Pourim, que je ne peux pas dissocier du livre d'Esther.
Elle est dans le livre.
Oui, c'est vrai, elle est dans le livre.
Et à cette fonction de consolation, d'apaiser l'angoisse et de ce que vous dites, Éric Marty, à savoir que l'évitement fait partie de la mention même de la catastrophe.
C'est le soulagement est magnifique. C'est vraiment dans le texte même, c'est dit, de passage des pleurs au rire. Ouais, et ça, cette association justement des rires et des pleurs est, à mon avis, l'élément allégorique qui décrypte le sens profond du livre.
Alors, il y a quand même quelque chose qui devrait vous réconcilier, Éric Marty, avec la prière d'Esther, telle qu'elle figure aussi bien dans la Bible traduite par le maître de Sacy que dans la pièce de Racine, c'est Rachel, Elisabeth Félix, et cette anecdote absolument extraordinaire que vous racontez, que je vous demanderai de relater pour nous, Elisabeth de Fontenay, Elisabeth Félix, qui est invitée par Chateaubriand dans le salon de Madame de Récamier. Dans le salon de Madame Récamier, et elle doit réciter la tirade de Pauline dans Polyeucte. Et racontez l'événement, Elisabeth.
Alors, la société du Faubourg Saint-Germain, la bonne société littéraire et catholique de l'époque, voulait à tout prix convertir Rachel, qui était la plus grande actrice et qui avait ressuscité le théâtre français, en particulier le théâtre du XVIIe siècle, puisqu'elle jouait énormément de Corneille et de Racine. Elle était très à la mode, elle était la maîtresse d'hommes princiers, sinon royaux. Elle était donc extrêmement lancée et il la voulait faisant partie des leurs. Et un jour, ils ont fomenté d'inviter l'archevêque de Paris à une réunion où elle devait être présente et où elle devait réciter le rôle de Pauline. Et il était prévu qu'au moment où Pauline dit à la scène 5 de l'acte 5 « Je vois, je sais, je crois, je suis désabusée », Rachel avait l'habitude de tomber à genoux avec les bras en croix quand elle disait ça. Eh bien, ils avaient prévu, l'archevêque de Paris étant présent, de la faire baptiser à ce moment-là, immédiatement. Malheureusement, l'archevêque de Paris a été retenu, j'imagine, par des encombrements. Et elle a dû réciter son rôle de Pauline en son absence. Et puis, quand il est arrivé, Chateaubriand Et le petit monde a dit, mais vous allez recommencer cette tirade de Pauline devant l'archevêque. Et elle a dit non. Et elle s'est adressée à l'archevêque. Elle lui a dit, si votre éminence le permet, je réciterai plutôt la prière d'Esther. Et c'est quelque chose que j'ai découvert il y a moins de 10 ans et qui m'a ému au-delà des larmes, parce que c'est à la fois toute la francité du théâtre classique ressuscitée par cette petite juive qui parlait, qui avait un accent épouvantable, un accent allemand épouvantable quand elle a commencé à faire du théâtre déformé par Samson, et qui s'est hissée pas à pas jusqu'à la plus grande gloire et une gloire mondiale. Et ce mélange de francité parfaite, linguistique et même politique, parce qu'elle se sentait profondément française, et de judéité, de fidélité à la judéité, c'est pas du tout pieuse. Elle donnait de l'argent à la fois à la synagogue et aux églises. Elle refusait absolument qu'on la convertisse. On a essayé plusieurs fois. Voilà, il y a là quelque chose qui m'a profondément émue. Je reconnais que c'est très idiosyncrasique.
Ah non.
C'est très caractéristique de,
non,
de mon histoire.
Oui, c'est très caractéristique de votre histoire, mais sachez que le lecteur est bouleversé quand il lit ce récit dans votre livre. Et là, j'ai envie de vous dire à l'un et à l'autre, comment pouvez-vous considérer la prière d'Esther comme une prière chrétienne? Parce qu'il me semble que ce dont elle témoigne, ce n'est pas tant de la foi comme croyance que de la foi comme fidélité, indiscernablement, à Dieu et au peuple. Et c'est bien pour cela qu'Elisabeth Félix Rachel a pu, en quelque sorte, s'emparer de cette prière pour déjouer la manigance dont elle était l'objet.
Et alors, Lévinas dit la transcendance nécessite l'ambiguïté. Et je trouve justement que la prière d'Esther n'est pas assez ambiguë. Elle est en fond, elle est très thématisée, elle est univoque. Elle est belle parce que c'est de racine et que les vers de racine sont magnifiques. Mais
oui,
elle manque de l'ambiguïté essentielle dont parle Lévinas, qui est le propre de la transcendance, l'intrigue de l'infini. Elle est trop, à mon avis, finie, trop dans le contenu, trop explicite. Cela dit, comme vous, Alain, j'ai été bouleversé en lisant le livre d'Isabelle de Fontenay, du début jusqu'à la fin, mais particulièrement à ce passage-là, parce qu'il y a quelque chose aussi dans le livre d'Isabelle de Fontenay, quelque chose de dramatique, et une sorte de dramaturgie de la pensée, qui est une dramaturgie pas seulement de la pensée, et c'est ça qui est très beau, et aussi une dramaturgie justement de, au fond, de sa vie, de son existence, de sa singularité, de son histoire. Et l'épisode de Rachel, qui est raconté de manière très belle, très très sobre, mais très émouvante, est extraordinaire. Et en plus, il ajoute la question de la théâtralité, qui est précisément associé à Pourim. Je ne pensais pas par hasard si, au fond, il y a ces figures juives du théâtre, qui sont des figures excentriques et en même temps très raisonnables, les deux à la fois, dont Rachel, mais aussi Sarah Bernhardt et tant d'autres. J'ai vu le film là de Plechin, Esther Kahn. Esther Kahn pourrait être vue comme une sorte aussi d'autre Esther. Enfin, il y a quelque chose de très profond dans ce lien entre ces femmes juives et le théâtre, et le refus de Rachel est à quelque chose d'héroïque, quelque chose d'allégorique aussi.
Je ne sais pas si vous savez, Éric Marty, que Esther, jouée par Rachel, était jouée systématiquement le jour de Pourim. Et les Juifs, au lieu d'aller à la synagogue, venaient au théâtre assister à la représentation d'Esther. C'est une chose qui je trouve tout à fait extraordinaire dans l'histoire française, dans l'histoire littéraire française.
Et Racine, comme vous le dites très bien, était au fond, quoique chrétien, quoique janséniste, était profondément imprégné, mais comme Pascal aussi, comme tous les jansénistes, étaient comme des grands lecteurs de l'Ancien Testament, avaient malgré eux une sensibilité, je dirais, quasi juive aussi.
Je suis content de vous l'entendre dire. Mais alors, votre livre, Elisabeth de Fontenay, est aussi une rêverie sur les noms, vous le dites, et ce n'est pas pour rien que, dans votre histoire justement, le nom de Rachel, le vrai nom de Rachel, ce soit Elisabeth Félix, puisque vous dites que ce nom qui est votre nom de baptême, eh bien, Élisabeth, c'est la fille du roi de Hongrie, épouse du landgrave de Thuringe, et qui ne pensait au cœur de sa gloire qu'à secourir les pauvres. Un jour, son époux la rencontre dans la campagne et lui demande ce qu'elle porte dans son tablier qu'elle tient refermé. Elle répond que ce sont des roses alors que c'est du pain. Et puis un miracle se produit. Le pain avait été remplacé par les roses. Et du pain et des roses, c'est, ajoutez-vous, ce que réclameront les femmes de l'industrie textile au début du XIXe siècle aux États-Unis. Donc vous vous placez vous-même sous l'invocation, en quelque sorte, de votre nom de baptême, que vous retrouvez chez Rachel. Et là, j'en viens quand même à la querelle finale du livre, la querelle que vous avez avec Proust, je ne sais pas comment dire, cette petite dispute, car il y a une Rachel dans Proust, dans La recherche du temps perdu, Rachel surnommée, vous nous expliquez pourquoi, Rachel camp du Seigneur, dont vous dites qu'elle efface et caricature à la fois la grande Rachel, et vous en voulez à Proust de, je ne sais pas comment dire, cette faute de goût, Élisabeth de Fontenay.
Je crois que j'aimerais bien qu'Éric Marty dise ce qu'il pense avant de me,
prononcer. Mais dites-vous, dites d'abord pour l'auditeur
Rachel,
ce qu'il en est.
Rachel, camp du Seigneur, est un personnage assez négatif, presque constamment ridiculisé, avec quelques moments troublants d'estime. Mais pourquoi a-t-il pris ce nom ? D'abord, camp du Seigneur, ça vient d'un opéra de Halévy et Scribe, qui n'a pas été joué entre 1934 et
2007, je crois.
2007. Ce qui montre que c'était quelque chose d'un peu sulfureux, n'est pas le mot, mais quelque chose de complètement équivoque. Alors je ne raconte pas cet opéra, mais le malheur, c'est que la grande Rachel avait pris ce nom de Rachel, Élisabeth Félix avait pris ce nom de Rachel à cause de l'opéra, qui, dans la première, était un an avant qu'elle commence à jouer. Donc Proust reprend ça. Et pourquoi a-t-il choisi ce nom de Rachel ? Alors, la question des noms propres chez Proust est d'une complexité infinie. Je cite cette phrase qui est dans le Contre Sainte-Beuve et qui est absolument une profondeur infinie. « Le courant mystérieux que le nom fait courir ». Eh bien, il n'y a aucun courant mystérieux que fait courir le nom de Rachel. Il y a juste Rachel, camp du Seigneur, cite la grande Rachel, dont il n'est jamais question, il ne pouvait pas en être question. C'était pas du tout un personnage susceptible de figurer dans la recherche, bien entendu. Mais pourquoi ce prénom de Rachel qu'est-ce qui se passe dans l'écriture de Proust ? Je vais pas dire dans son inconscient. Qu'est-ce qui se passe dans la réminiscence pour qu'il choisisse ce nom en le tournant en dérision par le qualificatif « camp du Seigneur » alors qu'il y a quand même très peu de temps auparavant, et sa mère lui en a forcément parlé, l'existence de ce grand événement littéraire, et pas seulement dramatique, qu'est Rachel.
Alors, Rachel, camp du Seigneur, c'est tiré du fameux air d'un des personnages, l'oncle de cette Rachel, je crois, Éléazar. Oui. Rachel, camp du Seigneur, la grâce tutélaire, à mes tremblantes mains, convia ton berceau. Éric Marty.
Oui, alors c'est un dernier épisode du livre, au fond. Il y a beaucoup d'épisodes dramatiques, dramaturgiques, et il y a une querelle. Moi, j'aime beaucoup les querelles parce que quand elles sont justement pleines d'équivoques, comme est la vôtre. C'est-à-dire que, en effet, vous vous querellez avec Proust, mais votre propos est lui-même ambigu parce que, aussi bien sur l'usage que fait Proust de l'ester de Racine par rapport au monde homosexuel, on va en parler, que par rapport à Rachel, vous êtes moins, je crois, moins explicite, moins univoque que vous venez de l'être. C'est-à-dire, vous reconnaissez tout de même que cette Rachel, elle n'est pas entièrement d'une pièce. Rachel, c'est d'abord, en effet, une femme que le narrateur rencontre dans un bordel, avec qui il ne couche pas parce qu'il est fatigué ce jour-là, bref, et qu'il revoit dans les bras de son ami Saint-Loup. Donc ça, c'est tout le phénomène, tout l'effet proustien, là encore, presque carnavalesque, une fois de plus, du recensement de la prostituée qui, au fond, est une artiste. Moi, je ne suis pas aussi négatif que vous par rapport à la figure de Rachel, parce qu'au fond, Cette première image est traumatisante pour le narrateur de cette fille vue dans un bordel, mais après, elle devient une immense actrice qui est précisément une moderne. C'est ça qui est aussi amusant chez la Rachel de Proust. C'est une actrice moderne et qui s'oppose, je dirais, un peu à la Berma, qui est une sorte de Sarah Bernhardt, en quelque sorte, qui est plus classique, plus une racine, qui en effet est aussi une grande actrice de racine, mais qui est beaucoup plus dans un classicisme qu'admirée par Swann ou par Bergotte, alors que Rachel, c'est une symboliste. Elle va jouer du Maeterlinck chez la Duchesse de Guermantes, et elle est les aristocrates qui ne sont pas des gens de grand goût, hein, qui ne sont pas des gens très raffinés, tels que Proust les décrit, se moquent d'elle, rient en voyant ses gestes décalés par rapport à la parole. Et il y a un propos magnifique de Proust sur Rachel quand il dit, lorsqu'elle vient jouer chez la princesse de Guermantes dans Le Temps retrouvé, où il dit qu'elle semble penser les vers avant de les dire. Et il y a là quelque chose de profondément moderne dans la manière dont Proust, dans le narrateur de La Recherche du Temps Perdu, décrit Rachel Camp du Seigneur, qui perd à ce moment-là d'ailleurs son espèce d'épithète homérique du Camp du Seigneur, qui devient Rachel, tout court. Et la description que fait Proust du jeu, la diction même de Rachel, je la trouve... alors, effectivement, il n'y a jamais d'éloge de Rachel par le narrateur, mais néanmoins, elle inscrit la modernité, le modernisme esthétique, celui du symbolisme Maeterlinck, Mallarmé, etc., avec son grand lys qu'elle tient à la main lorsqu'elle joue chez la Duchesse de Guermantes. Et je ne suis pas complètement convaincu qu'il y ait qu'elle soit un personnage négatif. Elle est ambiguë. Elle est un personnage qui parcourt toute l'œuvre jusqu'à la fin. Elle est méchante, oui, méchante comme le sont les actrices, mais pour autant, elle se moque de la Berma qui, à ce moment-là, est un peu dans les choux sur le plan artistique. Mais je trouve qu'elle a quelque chose de très profond, et surtout, elle inscrit le moderne dans le champ de La Recherche du Temps Perdu, ce qui est tout de même pas complètement négligeable.
Oui,
Elisabeth de Fontenay.
Je suis d'accord avec vous jusqu'à un certain point, et je suis très sensible à Maeterlinck dans l'affaire, le fait qu'elle joue du Maeterlinck. Alors, tout le monde se gausse, parce que c'est ridicule. Il y a une intériorité là qui est complètement ridicule, aux yeux des Guermantes. Mais la même Rachel, Proust, enfin le narrateur en l'a dit, qu'elle avait fait beaucoup de bien à Saint-Loup, qu'elle lui avait donné un certain sens de l'infini. Et puis qu'elle lisait Ibsen et Tolstoï. Enfin, c'est certain que ce personnage est plus complexe que je ne l'ai dit. Il reste que à la fin du livre, dans le salon de la princesse de Guermantes, le narrateur voit surgir une immonde vieille. Et une immonde vieille dont tout le monde se gausse, parce qu'elle fait des gestes disproportionnés et sans rapport avec ce qu'elle récite. Et puis, une femme qui débine, le mot de débiner chez Proust, qui débine
la Berma
de façon absolument effroyable, disant de cette femme que Proust a quand même beaucoup aimé, peut-être un peu tardivement, mais qu'il a beaucoup aimé, dont il a beaucoup aimé le jeu, qu'elle parle une sorte de volapuc. C'est certainement un peu plus complexe que ce que j'ai pu en dire.
Mais Elisabeth de Fontenay, le bal des Guermantes, tous les personnages sont atrocement vieillis.
Absolument.
Et donc pas plus finalement Rachel que les autres, ou un peu plus quand même?
Oui.
Un peu plus quand même.
C'est vrai.
C'est le temps retrouvé. Ouais, c'est le temps retrouvé. Donc c'est le bal des têtes. Le vieillissement. Il n'y a que le narrateur qui est resté absolument intact. Oui. Il est une sorte de Parsifal comme ça qui demeure intact jusqu'au bout, alors qu'autour de lui, tout le monde est vieux.
Tout se détériore, tout s'écroule.
Oui, tout le monde. Les cheveux blancs, les ventres qui se gonflent, la coupe rose, les rides. Il y a quelque chose comme une... Alors, elle est en effet d'autant plus... c'est un peu plus affreux qu'elle est Rachel, qu'elle est une actrice et qu'elle est donc une immonde, une horrible vieille, je ne sais plus quelle expression de Proust.
Une immonde vieille.
Voilà. Donc c'est méchant, mais c'est aussi le sadisme de Proust qui est aussi là. Il y a le sadisme qui est quand même, qui règne.
Ah, le sadisme de Proust, vous voyez, jusque-là.
Oui, il y a un certain sadisme de la part de Proust dans la une méchanceté proustienne qui en effet n'épargne pas Rachel, mais n'épargne pas non plus les autres et les personnages sont tous des grimés par le temps. C'est le grimage du temps.
Alors, je voudrais maintenant, Élisabeth de Fontenay, que vous expliquiez cette phrase que j'ai citée tout à l'heure, cette phrase très belle, mais quand même un peu énigmatique. Ce livre nostalgiquement catholique, timidement juif et imaginairement français. Et vous parlez d'une contradictoire filiation que vous vous refusez à définir comme judéo-chrétienne, puisqu'aussi bien vous ne croyez à rien et vous vous trouvez dépourvu des racines de la terre comme des ailes de l'errance.
Mais c'est la vérité. Alors, je savais que, vous, Alain Finkielkraut, que vous m'attraperiez au tournant sur timidement juif et surtout imaginairement français. Alors, je crois qu'il faut que je m'explique sur ces trois mots. Nostalgiquement, catholique, c'est absolument évident. J'étais formé par ça jusqu'à l'âge de 18 ans. Je suis resté beaucoup dans ces catégories-là. Quand j'entends des cloches sonner, j'ai une petite nostalgie des messes. Bon. Timidement juif, je peux pas me dire plus que ça, puisque je n'ai pas fait d'hébreu, puisque je n'ai pas, je suis juif par Auschwitz. Rien tellement de plus, et par un certain attachement, un très fort attachement, à l'État d'Israël. Mais pour le reste, je suis un peu distante, je ne travaille pas, je ne travaille pas sur ces questions-là, je n'étudie pas, donc je crois que timidement juif est parfaitement juste. Mais je savais que, imaginairement française, ça vous déplairait.
Non, ça ne me déplaît pas.
Alors, pourquoi imaginairement française?
Ça m'interpelle, comme on dit
pourquoi
aujourd'hui.
Pourquoi imaginairement française? Ben, parce que Michelet, voilà. Je suis une passionnée de Michelet. Et je trouve qu'il y a un imaginaire de la nation, de la République, de la nation française chez Michelet, qui est absolument splendide, et j'y ai senti pleinement. L'identité française, pour moi, c'est Michelet. Mais ça passe par l'imaginaire de cet immense historien qui était un très grand poète.
Moi, j'étais très sensible à ces trois éléments. J'ai eu d'abord une réaction, en fait, politique à cet énoncé. Et je crois que c'est quelque chose qui vous concerne, vous, comme personne, mais c'est aussi quelque chose qui concerne notre présent, notre époque. Et qu'en affirmant finalement cette francité à l'abri d'une timidité juive et d'un rapport aussi au monde catholique, je trouve ça me convient parfaitement au sens où vous ne cédez sur rien. Et c'est, je crois que l'essentiel d'une identité, ça n'est pas justement une identité qui est une simple affirmation, mais c'est de ne pas céder sur les nuances, de ne pas céder sur justement cette sorte de trinité qui vous constitue. Qui ne constitue pas seulement vous-même, qui constitue, je pense, d'autres sujets français que vous. Et je pense que le mot français que vous utilisez est un mot parfaitement noble et que votre affirmation d'une francité me paraît juste, forte, très nuancée, c'est ça qui est aussi très beau dans votre façon de l'affirmer. Reculer là-dessus, il me semble que c'est vraiment une forme de défaite de la pensée, une défaite de l'identité. Et je crois que vous avez... Moi, je suis très, très sensible à votre capacité, justement, mais ça, c'est vrai pour tout le livre, à produire des niveaux différents de discours et qu'ils soient en cohérence, en harmonie, les uns par rapport aux autres. Et votre trinité, elle est très harmonieuse, je trouve.
Trinité harmonieuse, alors, un mot sur cette identité ou cet imaginaire français. Une réflexion que je tire aussi du dernier chapitre de votre livre, Élisabeth de Fontenay. Vous citez Benjamin, traduire consiste à s'acquitter d'une dette, mais dites-vous, écrire aussi, c'est s'acquitter, et envers tout autre que soi-même. Et vous poursuivez cette réflexion sur la dette quand vous dites que l'école doit cultiver chez les élèves une expérience de la dette, il faudrait former en chacun d'eux cette promesse d'identité et de potentialité ignorée. Vous finissez ainsi, la gratitude envers les sublimes créanciers que sont les écrivains, les philosophes, les historiens, ferait alors un peu barrage aux diverses figures de l'équivalent général qui minent le temps présent. Et peut-être qu'à travers cette gratitude, peut se constituer précisément une identité ou un imaginaire français. Je ne vous chipoterai pas là-dessus, mais il n'est pas sûr que ce soit le chemin que prenne aujourd'hui l'école.
Ça, c'est absolument évident. L'avenir de l'école aujourd'hui, c'est le numérique, point à la ligne. Bon, mais si vous voulez, j'étais évidemment très inquiète quand j'ai eu terminé d'écrire ce que j'ai écrit par le fait que ça pouvait avoir l'air très franchouillard, très catholique et franchouillard.
Franchouillard, c'est pas un mot que j'aurais prononcé pour votre livre, hein. Vraiment. Bon,
et je pense qu'on ne peut plus. Alors, pour répondre à votre question, on ne peut plus enseigner nos ancêtres les Gaulois. On ne peut même probablement plus enseigner Corneille, Racine et Molière.
On m'a jamais enseigné nos ancêtres les Gaulois. En revanche, on m'a fait lire en troisième ou en seconde, je ne sais pas, ce qui est incroyable, les Provinciales de Pascal. On lisait les Provinciales, la grâce efficace et tout ça, alors que ça n'avait vraiment rien à voir avec ce dont nous venions. Et on aimait ça.
Éric Martin. Oui, peut-être ce qui nous manque, c'est ce que Lévinas donne comme élément essentiel, le rituel. Et le rituel, par exemple, de Pourim. Les rituels sont justement ce qui transmet les choses. Et la Bible, en ce sens, est peut-être le texte de la transmission le plus important. Donc, ce qu'il manque peut-être, en effet, ce sont les outils symboliques ou les formes symboliques de la transmission. Et c'est là-dessus qu'il ne faut pas céder, surtout qu'il faut maintenir notre amour du symbolique et de la transmission.
Bien. Ce sera en effet transmission, le dernier mot de cette émission. Je rappelle, Elisabeth Fontenay, le titre de votre livre, La prière d'Esther, que je conseille très instamment aux auditeurs. Le livre est publié aux éditions du Seuil. C'est un livre magnifique. Et puis aussi, j'ai parlé de la Bible dans la traduction de Le Maître de Sacy, qui vaut vraiment la peine. Elle est publiée dans la collection Bouquins chez Robert Laffont. Quant à l'Esther de Racine, vous la trouverez où vous voulez. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard, Alexandra Malka et Didier Lagarde. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannenet.